BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais pas ce qui est plus pénible, si c'est la chaleur ou les gens qui en parlent toute la journée. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est votre week-end. Et c'est une émission, comment dire, je réfléchis, exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va analyser les événements majeurs. Et il s'en est passé qui ont marqué la semaine sur l'économie, la finance, les marchés, votre argent. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, le deal. C'est un bon deal ou un mauvais deal? Bon, on connaît déjà la réponse, hein. On ne sait pas pour qui d'ailleurs. La question macro, comment l'économie mondiale va-t-elle réagir à la sortie de la guerre? Est-ce qu'on va revenir à la situation d'avant la guerre ou est-ce que des choses ont changé? Le chiffre de la semaine, c'est évidemment le cours du pétrole, déterminant, hein. Déterminant dans le deal, déterminant dans l'avenir, déterminant pour l'inflation et les taux d'intérêt. En deuxième partie de l'émission, à la bourse, évidemment, je vais demander à mes invités s'il y a un événement qui les a marqués sur la bourse cette semaine. La question d'argent, placement de la semaine, bien sûr, le top ou le flop, le top 3 des gérants, vous attendez avec impatience les actions à acheter ou vendre, mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, on s'est posé la question de savoir ce qu'il fallait, on s'est dit, en fait, il faut des invités exceptionnels, j'ai donc le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance, c'est un habitué de BFM Business avec un fan club très actif, je vous explique pas, quand il rentre ici, il y a des cris dans les couloirs, je dirais pas qu'on peut le comparer à quelqu'un...
Non.
Wilfried Galland, vous êtes directeur général adjoint de Montpensier Herbevel. Bonjour Wilfried.
Bonjour Marc.
Plaisir de vous avoir. Il connaît la tech américaine sur le bout de ses doigts et va nous dire ce qu'il faut penser de l'introduction de SpaceX, de celle à venir d'OpenAI et d'Anthropic. Louis Montalembert en direct du château de Versailles où il habite, avec sa famille, gérant chez Sony AM. Tout va bien?
Oui, tout va bien.
Sympa de l'avoir prêté à Macron.
N'est-ce pas?
Non, franchement, j'ai trouvé ça sympa de la part de votre famille parce que c'est pas évident.
Il me donne un petit billet à la fin.
Oui, je comprends, mais enfin, bon, d'un autre côté, savoir qui dort dans votre lit, tout ça, ça doit être gênant, quoi, non?
Ouais, c'est vrai.
Et Donald a dormi là-bas ou pas?
Non.
Tout ce qui brille n'est pas d'or, a-t-on l'habitude de dire, mais cela ne s'applique pas à elle, qui brille et qui vous conseille l'or depuis longtemps. Céline Picmal-Prad, vous êtes la patronne de Picmal Houghton Investment. Comment ça se passe chez vous? Pas chez vous à la maison, hein, ça me dérange, ça m'intéresse pas du tout. Mais ça va, vous avez une bonne année?
On a une bonne année en termes de collègues parce que vous êtes nombreux à nous faire confiance et on tient nos positions et on espère bien qu'à un moment ça va fonctionner par rapport aux indices.
Et vous allez nous parler de l'or?
Et je vais vous parler de l'or, mais aussi d'autres choses, j'espère quand même.
Petite pause, je fais un petit silence de circonstance. Il est à l'économie ce que le général est à la France. Elon Musk à la bourse, Johnny Hallyday à la chanson française et Brigitte Lahaie au X, le monumental Jean-Marc Daniel.
Bonjour, je ne sais pas quelle est la comparaison qui me flatte le plus, mais je pense que c'est la dernière, franchement.
Oui, j'imagine. Évidemment, vous savez, on ne dira pas pourquoi on a pensé à ça tous les deux. Allez, le mot de la semaine, c'est deal, et les Iraniens auraient dû écrire The Art of the Deal, pas Donald Trump. Les premiers éléments du deal sont des concessions majeures pour l'Iran, avec pour seule réelle contrepartie pour l'instant une hypothétique ou véritable réouverture du détroit d'Hormuz. Alors tout ça pour ça, Jean-Marc Daniel?
Oui, c'est assez surprenant. Vous savez, concernant ce genre d'événement, je reviendrai à un commentaire qui avait été fait ici même, d'ailleurs, par François Villeroy de Gallois, à l'époque où il était gouverneur de la Banque de France. Et il disait, écoutez, sur le fond, dans le détail, tout ça, je pense qu'il me manque deux éléments pour porter un jugement décisif. Le premier, c'est que je suis pas spécialiste des problèmes militaires, donc je sais pas très bien pourquoi, ce qui se passe en ce moment. Donc c'était, et la deuxième chose, c'est que je ne suis pas psychiatre. Alors il avait pas dit psychiatre, mais il avait dit il psychologue, fait mais moi je pense que le mot, c'est psychiatre, concernant l'analyse de la politique américaine. Et je crois que ce jugement, donc, en utilisant le mot psychiatre plutôt que psychologue, est assez pertinent. Je comprends pas très bien quelle est la stratégie des Américains, le seul que
pas des Américains.
Enfin, du président des États-Unis. Et la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, au sein même de l'administration Trump, il y a des soubresauts.
Bien sûr.
Dans son parti, il y a des gens qui commencent à dire, mais écoutez, on va où? Et la seule réponse, alors là aussi, c'est anecdotique, mais cette semaine, non seulement il a fait un deal avec les Iraniens, mais il s'est attaqué à Newsom, l'ancien gouverneur de Californie, qui est un potentiel candidat du Parti démocrate aux prochaines élections. Et donc, on a une vision d'un personnage qui, quand même, est assez dans l'immédiateté, dans l'incapacité à analyser le moyen et long terme, et qui s'est engagé dans une aventure dont il ne mesurait pas véritablement ni les tenants ni les aboutissants. Alors, arrivé à comme résultat de rétablir la circulation dans le détroit d'Ormuz alors qu'elle est
était déjà
avant qu'il ne s'en mêle.
Libérer des fonds pour financer le régime.
Oui, et annoncer qu'on va lever les sanctions. Il y a quand même une chose, c'est que l'Iran, dans tout ça, qui clame sa victoire, a montré trois faiblesses. La première faiblesse, c'est que ses dirigeants sont identifiés, susceptibles d'être assassinés à tout instant par...
Les dirigeants qui restent.
Oui, les dirigeants qui restent sont sous la menace permanente de ce que veulent les... potentiellement les Israéliens. La deuxième chose, c'est que le prix du pétrole ne s'est pas envolé, et donc en particulier la reconstruction de l'Iran n'est pas garantie sur la base du prix du pétrole. Et la troisième considération, je ne sais pas comment les Israéliens vivent ça, mais ils peuvent espérer quand même être, sinon débarrassés, du moins contenir le Hezbollah et le Hamas dans les années qui viennent. Donc pour eux, c'est pas forcément aussi négatif qu'on le dit.
Oui, en tout cas, c'est pas ce qu'ils disent. Eux, moi, je me suis complètement planté là-dessus, parce qu'en fait, j'ai été assez juste sur la première partie du raisonnement est totalement faux, Wilfried, sur la suite. C'est-à-dire, au début, je me suis dit, la guerre ne durera pas longtemps parce qu'il voudra la finir rapidement pour des problèmes de pouvoir d'achat, c'est-à-dire la hausse du prix du pétrole et les taux d'intérêt. Là-dessus, je ne me suis pas planté. Mais à aucun moment, je pensais qu'il se retrouverait en position de faiblesse dans une négociation, Wilfried.
Tout le paradoxe, c'est que lui-même avait dit au moment de la conclusion du précédent traité par Barack Obama, il avait eu cette phrase, c'est lui-même qui a eu cette phrase, les Iraniens n'ont jamais gagné une guerre, mais n'ont jamais perdu une négociation. C'est Trump lui-même qui avait dit ça. Et donc, on le voit de façon très claire. Ce qui est certain, c'est que il a mal mesuré la pression économique et donc politique qui s'exerçait sur l'Amérique et sur ses électeurs via l'étranglement progressif du détroit d'Ormuz.
Mais comment c'est, comment c'est possible? C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, moi je suis pas spécialiste, comme dit Jean-Marc Daniel, il l'est pas, mais moi encore moins. Mmh. Enfin, j'ai l'impression qu'un gosse de 5 ans aurait pu dire, de toute façon, leur moyen de rétorsion, ça va être ça. Enfin,
pas forcément, parce que jusqu'à présent, y compris dans les périodes de très très fortes tensions dans le Golfe, jamais l'Iran n'avait clairement menacé de fermer les détroits d'Ormuz. Mmh. C'était considéré comme un tabou. Mmh. Parce que, en particulier, leur soutien numéro un, qui est les Chinois, et certains alliés dans le Golfe, auraient véritablement beaucoup souffert. Il faut pas oublier, ce qui a été le cas, mais il faut pas oublier, par exemple, que le Qatar a dû subir un blocus. Mmh. Parce qu'ils supportaient l'Iran. Et donc, tout le monde disait, non, ils n'iront pas jusque-là. Mmh. Donc là-dessus, je ne jetterai quand même pas complètement la pierre. Okay. Mais néanmoins, ce qu'on a vu, c'est que la pression politique était extrêmement importante et que on avait deux éléments, à part les midterms dont tout le monde parle, mais qui étaient très importants pour Donald Trump. D'abord, la Coupe du Monde de football, où il a quand même obtenu, je le rappelle, à la fin, de soulever le trophée. Mmh. Avec les gagnants, et donc il ne voulait pas apparaître comme étant toujours un président en guerre, et ce qui va arriver la semaine prochaine, le 4 juillet, l'anniversaire des 250 ans des États-Unis, là aussi il voulait être capable de faire là aussi son mission accomplie.
On savait qu'il y avait des échéances, sur ça le raisonnement était bon, simplement comme...
Exactement, et la pression du temps et de l'argent était trop forte.
Wilfried, ce que je trouve intéressant, c'est la situation du Qatar. Parce que Wilfried a dit que le Qatar supportait l'Iran. En français, on dit soutenait, et supporter, c'est en anglais. Et donc, en fait, le Qatar supporte au sens français du terme, c'est-à-dire subit les conséquences de ce que fait l'Iran, alors qu'il était au départ le soutien de l'Iran. C'est-à-dire la capacité de l'Iran à se brouiller avec tout un tas de gens en disant, finalement, nous n'en avons rien à faire. Finalement, on va effectivement bombarder les gens qui nous soutiennent, on va bombarder les gens autour de nous. Mmh. Avec le Pakistan, ils étaient à deux doigts de se mettre en guerre, et donc les Pakistanais ont essayé de jouer la diplomatie. Mmh. Donc il y a une espèce de détermination chez les Iraniens que personne n'a évalué. Je pense que tout le monde pensait qu'ils allaient tout de suite dire « bon, on arrête, on veut sauver les meubles, on arrête tout de suite ». Pas du tout. Ils se sont mis dans une situation de véritablement résistance.
Oui, mais ça, c'est la question des guerres asymétriques. En fait, les Américains ont oublié les guerres asymétriques. C'est ce qui s'est passé au Vietnam. Des gens qui sont prêts à perdre 3 millions de morts pour 30 000 morts américains, ça c'est la guerre du Vietnam. Finalement, en Iran, on a la même chose. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est en même temps que se déroule la guerre d'Ukraine, qui démontre justement qu'un pays qui se bat sur son propre terrain peut gagner une guerre asymétrique. La deuxième chose que je trouve étonnante du deal, c'est les 300 milliards censés être investis en Iran, en fait, qui sont des indemnités de guerre. Et quelque chose me dit que Trump va se tourner vers ses copains du Golfe et leur dire
« Bonne chance.
Mes amis, vous avez déjà acheté pour 500 millions de dollars la moitié de ma société de crypto. Maintenant, vous allez cracher au patinet 300 milliards. »
Je pense que les Émirats, ça va être compliqué. Oui.
Les Émirats arabes unis, ils vont pas être très chauds avec ce qu'ils ont pris.
Ouais, tout ça est assez étonnant.
Ils vont pas retrouver le mot de passe.
Non, la question, à mon avis, la question que ça va poser derrière, c'est quelle est la conséquence sur la croissance économique.
C'est la question suivante.
Et voilà.
C'est le prochain sujet. Vous voulez faire la transition? Elle va présenter l'émission, quoi, pour la prochaine saison. Ça y est. Mais on m'a pas annoncé. Allez, on passe tout de suite à la question qui vient d'être posée. Bah, justement, comment ça va se passer maintenant? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé, en fait, pour l'économie mondiale? Moi, je suis assez d'accord avec Jean-Marc. Ce qui m'a frappé quand même, c'est la capacité. Alors, c'est sûr que, en termes de pouvoir d'achat, mécontentement des Américains et autres, mais la capacité qu'a l'économie mondiale quand même à absorber tous les chocs et à repartir. Alors, il va y avoir une croissance qui va être en berne hein, dans pas mal de pays, mais quand même, on s'organise. Quoi. Le prix du pétrole n'a pas flambé, on a réussi à trouver des routes alternatives, des alternatives. Comment on sort de cette guerre, Jean-Marc Daniel? Est-ce qu'on sort avec une économie mondiale qui ressemble à celle d'il y a 3 mois, où on va parler que de l'IA, des taux d'intérêt et...
Alors ça, qu'on continue à parler que de l'IA et des taux d'intérêt, ça c'est certain. Oui, ça, le discours va être toujours le même. Vous savez, il y a une.
À raison ou à tort?
À la fois à raison et à tort. Vous savez, un de mes derniers papiers dans un grand quotidien économique, c'était de revenir sur le testament politique de John Kenneth Galbraith, qui disait qu'il avait commencé sa carrière avec des mathématiciens en économie, et il la finissait avec des astrologues. Mmh. Et donc, l'astrologue, par définition, il est obligé de tenir un discours assez convenu pour pas trop se mettre en porte-à-faux. Mais je pense quand même qu'il y a dans cette affaire la grande surprise, et c'est qui va nous permettre d'être relativement optimistes, c'est le fait que le prix du pétrole n'a pas flambé. On n'a jamais atteint les niveaux de même des crises précédentes comme 2008-2009, sans parler des chocs pétroliers des années
70. Sans parler de 2022.
Oui, et dans les chocs pétroliers, le prix du pétrole était arrivé à un niveau et puis il ne redescendait plus. Après, c'était le marché du pétrole était monopolistique et donc il y avait une situation...
Et sur le gaz, il ne s'est rien passé.
Et sur les gaz, il ne s'est rien passé. Et ce que je trouve important dans ce qu'on voit sur le marché du pétrole, c'est qu'en fait, les Émirats arabes unis ont quitté l'OPEP pour des raisons d'irritation politique, mais aussi par le constat que l'organisation en tant que telle n'est plus en capacité de déterminer et de fixer le prix du pétrole. Et donc à partir de ce moment-là, cette logique qui consiste à vouloir imposer des quotas aux membres est une logique qui se retourne contre un certain nombre de membres. Et pourquoi? Et là, on retrouve une de mes obsessions, ce qui me frappe, c'est la montée en puissance des champs pétrolifères africains et la montée en puissance des économies africaines. C'est-à-dire que dans les années qui viennent et dans les mois qui viennent, je pense que les deux problèmes qui vont être récurrents, c'est comment on traite la dette de ces pays africains, parce qu'il va falloir s'intéresser à ça. Et la deuxième chose, c'est le fait que le prix du pétrole n'étant pas une source de est-ce qu'on va véritablement avoir le courage, vu la température qu'il fait en ce moment en France, est-ce qu'on va avoir le courage de mener les politiques qui sont quand même d'augmentation systématique de ces prix?
C'est votre côté écolo qui revient.
Oui, absolument. Mais je crois que c'est un des enjeux, y compris d'ailleurs non seulement de la présidentielle de 2027, mais de notre vie quotidienne dès aujourd'hui.
Très bien, camarade. Wilfried, l'économie mondiale, à partir de maintenant, le choc de la guerre en Iran, on voit des révisions à la baisse de toutes les croissances, à part aux États-Unis. Ouais. Est-ce qu'on va voir une croissance ralentie en 2026? Est-ce que ça va repartir en 2027? Ou est-ce qu'au contraire, on va avoir des blocs et des croissances différenciées?
On va avoir des blocs et des croissances différenciées, mais ce qui est sûr, c'est que l'impact de la baisse du prix du pétrole, qu'on voit déjà aujourd'hui, qui va probablement se prolonger, est un impact qui est potentiellement extrêmement positif pour la croissance. Ce qu'on a vu quand même dans cette histoire, c'est effectivement la capacité à trouver des solutions. Et je reprends le titre d'un ouvrage que Jean-Marc adore, qui est les 10 principes d'économie de Gregory Mankiw. Le quatrième principe d'économie, c'est lorsqu'il y a des changements économiques, fiscaux ou autres, les acteurs économiques s'adaptent. Ils s'adaptent aux incitations. On a vu effectivement des adaptations et je pense qu'on va continuer à avoir ces adaptations pour avoir une économie plus diversifiée dans ses sources d'approvisionnement. Mmh. Aujourd'hui, quand vous écoutez les grands pétroliers, ils sont pas prêts de revenir à 100% dans le Golfe dans les 2 mois qui viennent. Hein. Mmh. Ils vont d'abord faire sortir leurs tankers. Quand vous écoutez Patrick Pouyanné, je crois qu'il y a eu une interview avant-hier, il dit d'abord, je vais d'abord faire sortir tous les tankers que j'ai et ensuite, pour y revenir, je vais quand même attendre de voir comment ça va se passer, y compris d'un point de vue assurance et y compris d'un point de vue risque. Et donc, on va avoir une économie mondiale qui va gérer ses ses risques, probablement avec des coûts supplémentaires là-dessus, mais qui va être compensé par un prix du pétrole et un prix énergétique globalement relativement bas. Et effectivement, on a vu par exemple que tout au long de cette crise-là, quand on regardait les courbes de production pétrolière, on voyait que hors OPEP, donc effectivement en particulier les pays africains, hors OPEP, on voyait effectivement une production qui montait de plus en plus. L'OPEP et les États-Unis, c'était relativement stable les uns avec les autres, et donc on va avoir une économie qui va être diversifiée avec évidemment une croissance qui va être, comme toujours, largement supérieure aux États-Unis à ce qu'elle va être en Europe.
Ça va continuer, ça, parce que quand même, la croissance américaine, tout le monde le dit, c'est une tarte à la crème, mais elle est tirée par l'IA. Elle est tirée par les investissements directs, par l'effet richesse lié à l'explosion de la bourse. On a vu encore un nouveau plus haut historique sur le Nasdaq. Bon, c'est fragile, ça, quand même.
Et elle est tirée effectivement aussi par la consommation. La consommation a un côté effet richesse. Je rappelle que pour les ménages américains, vous avez 34 millions de ménages américains qui gagnent 34 millions d'Américains qui gagnent plus de 200 000 dollars. Je rappelle que pour nous, pour être dans les 10%. Qui gagne le plus, en gros, c'est 40 000 euros par an. Donc, on a une capacité de consommation et d'investissement aussi aux États-Unis qui est extrêmement importante.
Mais qui est liée à la bourse.
Mais qui est aussi liée à la bourse. Pas que, parce qu'il y a véritablement un revenu général qui monte, parce qu'il y a une productivité aussi qui monte, et il n'y a de richesse que de productivité. Donc, la productivité américaine est en accélération avant même l'IA. Mais effectivement, si on avait un crash de l'IA, et là, on aura le spécialiste avec nous qui va nous, nous éclairer.
C'est qui?
Il va arriver bientôt. Et là, effectivement, on pourrait avoir des problématiques de consommation. Je ne le vois pas aujourd'hui, donc c'est pour ça que je reste optimiste sur la croissance américaine.
La Chine, qui a été un moteur de la croissance, elle va bien ou mal, Jean-Marc Daniel ?
La Chine, pour autant qu'on le sache, ne va pas très bien. D'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant là aussi, c'est qu'on n'arrive pas à savoir, les règlements de compte qui se passent au niveau des dirigeants chinois sont assez mystérieux. C'est-à-dire, quand vous regardez, les militaires ont été particulièrement touchés, mais
Il y a une hécatombe de militaires,
entre les suicides, les gens qui ont avoué qu'ils étaient corrompus, etc. Tout l'état-major a été complètement décimé.
Mais il y a un patron.
Alors, il y a un patron qui est Xi Jinping, et puis il y a une montée véritablement de l'économie vers exclusivement marché exportateur et une incapacité à se tourner vers une dynamique de croissance par les effets intérieurs. Concernant les États-Unis, j'invite les auditeurs téléspectateurs à se pencher vers une polémique qui est relativement importante et qui passe relativement inaperçue entre Krugman et Aguillon. Sur le fait de savoir, donc Krugman prétend qu'on a une vision des États-Unis qui est beaucoup trop optimiste et une vision des Européens beaucoup trop pessimiste. Et Aguillon dit pas du tout, les États-Unis sont tirés effectivement par l'intelligence artificielle et tout ça. Et alors Krugman dit, on est à front renversé, puisque dans les deux cas, moi je dis du bien de l'Europe, et vous dites du bien des États-Unis, alors que normalement, il dit, détrompez-vous. La façon que vous avez de calculer la productivité, la façon que vous avez de calculer les parités de pouvoir d'achat sur le dollar, ne tient pas compte de l'immense déficit de la balance des paiements de courant, et donc fournit effectivement une vision des États-Unis qui est une vision des États-Unis qui est beaucoup trop positive. Alors effectivement, dès que je parle de déficit de la balance des paiements de courant, tout le monde me reconnaît là. Ce que je trouve,
ça et la taxe carbone.
Voilà, ce que je trouve assez satisfaisant, c'est que désormais j'ai un allié.
Ouais, vous avez un allié. Enfin quelqu'un qui voilà. Parle comme vous. Alors on a parlé des États-Unis, on a parlé de la Chine, on n'a pas parlé de l'Europe. Jean-Marc, est-ce que quand on voit là les déclarations un peu paniquées de Merkel par rapport à la Chine qui s'en prend à la sous-évaluation du yuan. Quand on s'en prend à la sous-évaluation du yuan, c'est qu'on n'a vraiment plus d'arguments. Est-ce que globalement, pour dire les choses de façon très transparente et directe, ils nous ont tué notre industrie?
Non, ils ne nous ont pas tué notre industrie, d'autant plus que je pense que notre industrie...
Elle était morte avant.
Elle évolue, elle disparaît progressivement, vous savez.
Et c'est pas grave.
Et c'est pas grave, non, je reviendrai là-dessus au cours de l'émission, si l'occasion m'a été donnée, mais c'est pas grave. Vous savez, il y a 10 ans, le président futur de la République, qui était Emmanuel Macron, a lancé sa campagne en disant qu'il n'avait aucune nostalgie des cheminées qui fument, et qu'il allait faire de la France la start-up nation. Bon, je pense qu'il n'y est pas arrivé, et je pense que l'Allemagne est aussi dans la même situation. Il faut faire de de ces pays, à la fois des start-up nations, et puis considérer que ce sont des pays qui sont aussi des maisons de retraite. Je pense que l'attitude du chancelier est une attitude de fuite en avant qui consiste à...
De panique, hein, quand même.
De panique et de
on
panique.
On le sent paniqué. Hein. Oui, 400 000 emplois industriels qui ont disparu en 5 ans, quand même.
Oui, mais à partir du moment où vous cherchez des boucs émissaires, c'est que vous êtes en situation d'être de faiblesse. Vous n'êtes pas capable, si ce n'est pas votre faute, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable, mais même pas responsable de ça. Et puis, je dois dire que dans les décisions d'actualité, l'augmentation du taux d'intérêt de la Banque Centrale montre que
vous les m'énervez là.
Faut pas nous lancer là-dessus.
Quelle comparaison avec la Banque d'Angleterre.
Ah oui, oui, oui. Ah,
mais
ça.
Non, mais
ça,
la Banque d'Angleterre.
Troisième item qui me fait plaisir, une nouvelle fois, les Anglais ont compris. Ouais. Alors que là, vraiment, on est
quel
quand même.
Quel drame.
On est stupéfait.
Ah oui, oui. Mais on en revient à la psychiatrie, à la psychologie.
Louis, c'est vous un peu qui tirez la croissance mondiale, hein, la tech, l'IA. On a l'impression quand même que c'est l'unique moteur. Alors je me trompe peut-être, moi j'ai vraiment le sentiment, en tout cas aux États-Unis, que tout repose là-dessus. Est-ce qu'il y a une fragilité là-dessus ?
Alors, c'est compliqué parce que en fait, on vit une rupture technologique telle que personne autour de la table n'en a vécu. Donc on essaye de trouver des points de comparaison dans l'histoire et de dire, on parle beaucoup de la bulle de 2000, ça s'est passé comme ci, comme ça. Moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, il y a une demande qui est quasiment insatiable aujourd'hui. Ouais. Et je voudrais juste revenir sur Anthropic, les chiffres d'affaires d'Anthropic. Anthropic, en 2023, c'est Dario Amodei qui l'a rappelé, faisait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, faisait 1 milliard en 2024, faisait 10 milliards fin 2025. Et à fin juin, on sera probablement à 60 milliards. Donc, on a une accélération de la croissance, on sera nettement au-dessus de 100 milliards à la fin de l'année.
D'accord. Et pour ça une valeur de 1000 milliards.
De l'entraînement.
Et pour une rentabilité qui est lointaine.
Non, pas du tout. Ah justement, bon on soupçonne.
D'être rentable, on les suit. Parce qu'OpenAI, c'est pas
au deuxième trimestre, il aurait dégagé 544 millions. Donc c'est une rupture technologique de taille. C'est évident que ça crée des inquiétudes. On se rappelle du rapport Citrine dont on a parlé. Est-ce que ça va être massivement déflationniste? Est-ce que, compte tenu des investissements massifs, de l'endettement, parce qu'on voit qu'on lève de la dette tous les jours, même Nvidia lève de la dette. Voilà, on est sur des terres inconnues qui peuvent créer un peu d'anxiété.
Vous êtes anxieuse ?
Non, mais pour rebondir sur ce que dit Louis, je suis tout à fait d'accord. On est dans un environnement où on cherche beaucoup, beaucoup d'argent pour financer quelque chose d'exceptionnel. Et là, on va retomber sur quand même les problématiques plus classiques dont on parlait au départ, c'est la maîtrise de l'inflation et la maîtrise des taux d'intérêt. Parce que quand on a beaucoup de dettes à aller chercher, est-ce qu'on arrive à avoir des taux d'intérêt suffisamment bas pour financer cette croissance ou pas ? Ça va être la question. C'est pour revenir sur la question du départ qu'on avait sur le deal Iran-États-Unis, compte tenu du fait que c'est quand même pas un deal qui nous met dans une sécurité totale, il y a fort à parier qu'on continue à constituer des stocks de précaution, il y a fort à parier qu'on continue à...
Oui, c'est pour ça que la baisse du pétrole sera peut-être plus lente que ce qu'on anticipait.
En tous les cas, plus modérée et qu'on reste quand même sur des niveaux qui vont pas être suffisamment bas pour juguler l'inflation, sachant que l'inflation des prix à la production hors énergie, hors alimentation aux États-Unis, on était à 5%. Donc ça, c'était en dehors de l'énergie. Donc ça va quand même être difficile, sauf si on a un ralentissement majeur dans l'économie.
Vous allez énerver. Vous avez vu ce qu'elle a dit ?
Elle
a dit qu'il y a une énorme inflation de 5%. Alors qu'il y a un type ici qui passe tous les jours des heures à nous expliquer qu'il n'y a pas d'inflation.
Oui, alors,
je ne donnerai pas de nom.
Hein. Oui, absolument. Non, mais on est quatrième sujet sur lequel je suis toujours présent, c'est il n'y a pas d'inflation. Alors, effectivement, il n'y a pas d'inflation au sens... Vous savez, quand disait Friedman, l'inflation est en tout temps et en tout lieu forcément monétaire. Donc là, quand vous augmentez la quantité de monnaie en circulation par les politiques monétaires, ce qui a été le cas au moment du quantitative easing, vous n'avez pas eu d'augmentation des prix. Vous avez eu une augmentation du prix des actifs, mais pas de l'inflation au sens qu'elle est définie comme étant une augmentation du prix de la consommation, de la vie courante des gens. Alors effectivement, là, vous avez un effet dans la mesure de l'inflation qui est un effet de la façon, l'indicateur qu'on utilise. On utilise de plus en plus maintenant des indicateurs en glissement. C'est-à-dire qu'on compare un mois au mois précédent, au mois de l'année précédente, le mois équivalent. Mais si vous la regardez en moyenne, c'est-à-dire si vous glissez tout ça, vous apercevez que l'inflation est déjà en train de ralentir. Et donc, vous avez une situation qui est une situation où à la fin, quand on retrouvera à partir de mars de l'année prochaine, vous allez avoir un effet où, au contraire...
On peut aller vers une déflation.
Oui. Ah, mais fondamentalement, je pense que la tendance historique de l'économie mondiale, c'est la déflation, parce que les gains de productivité considérables que nous promettent les spécialistes de l'intelligence artificielle vont se traduire par des baisses de prix. Ce que je pense de l'économie mondiale, c'est que la période qu'on appelait de Fordisme, c'est-à-dire la période des Trente Glorieuses où tout gain de productivité donnait lieu à augmentation de salaire, et derrière nous, tout gain de productivité donne lieu à baisse des prix. Et donc à partir
des réductions du personnel.
Et réduction du personnel. Et donc à partir de ce moment-là, on est dans une situation où effectivement tous les gens qui sont endettés vont être dans une situation extrêmement périlleuse. C'est le cas des États, on va vers une véritable... Donc je parlais tout à l'heure du problème au propos de l'Afrique, du problème de l'endettement qui recommence à se développer pour les États. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui vont être en situation, y compris dans le secteur privé, d'affronter cette déflation et le problème de leur endettement.
On va en reparler, parce qu'on va en reparler dans la partie marché, parce que ça m'intéresse sur le niveau des taux d'intérêt. On se retrouve dans quelques minutes pour parler des marchés, pour vous demander ce qu'il faut, mes amis, acheter ou vendre, hein. Est-ce qu'il y a un placement de la semaine que vous recommandez, et puis le top 3 des gérants que vous attendez tous.
BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino.
Allez, on se retrouve avec Jean-Marc Daniel. C'était passionnant cette première partie. J'espère que la deuxième le sera autant, et j'en suis sûr, avec Céline Picmal, avec Louis de Montalembert, avec Wilfried Galland. Je voudrais revenir sur ce que disait Jean-Marc Verboux, Wilfried. Déflation, vous aussi ?
Oui,
parce que. Oui, qu'en fait... non, mais attends, et les gens, ils écoutent, ils doivent se dire, on s'est trompé de pays, là.
Non.
Parce que tout le monde parle d'inflation, et j'ai deux personnes ici qui me disent déflation.
Le vrai sujet, c'est dans quelle tendance on était avant le choc de la guerre en Iran, et on sait que après les chocs, effectivement, il y a un choc de prix, et c'est incontestable, et le choc de prix peut être extrêmement violent et extrêmement dur à encaisser socialement, mais après ce choc, on reprend la tendance. Or, la tendance, effectivement, par le calcul de la productivité, sur lequel on peut revenir, par effectivement l'abondance d'énergie qu'on a aujourd'hui par rapport à la demande, fait que globalement, on est effectivement sur une tendance plutôt au minimum déflationniste, on n'est peut-être pas encore là, mais en tout cas à la baisse de la hausse des prix, oui, clairement.
Et la démographie.
Et la démographie, évidemment. Ce que disait Céline est intéressant, parce qu'il y a une balance, Jean-Marc, entre ce que vous prévoyez, c'est-à-dire désinflation et déflation, et puis quand même, mais vous le dites vous aussi très souvent, ce surendettement massif qui ne va faire que s'accélérer, puisqu'on va avoir moins de croissance, plus de personnes âgées, enfin bon, donc ça veut dire que voilà, le coût social va exploser. Sur les taux d'intérêt, ça provoque quoi ? Parce que d'un côté, on a une force à la baisse des taux d'intérêt, de l'autre côté, on a une force à la hausse des taux d'intérêt.
Non, les taux d'intérêt, vous avez deux types de taux d'intérêt.
À long terme.
Oui. Alors, sur les taux d'intérêt à long terme, on va retrouver, à mon avis, la bonne vieille règle le Taylor, c'est les courts termes. Pour le long terme, c'est plutôt la règle de Phelps qui nous a
dit
il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rendre hommage à cet économiste dans cette émission.
Bien sûr, on fait ça tous les week-ends.
Oui, donc Phelps, qui reprenait ce que disait Maurice Allais. Et donc, le fait que le taux de croissance de long terme d'équilibre, c'est le taux d'intérêt qui doit être pratiqué effectivement sur les marchés de capitaux de long terme.
Oui.
Et donc, à partir du moment où on est en déflation, vous avez effectivement un taux de croissance qui va être en nominal, aux alentours de 2-2,5%, ce qui fait des taux d'intérêt à long terme qui vont assez vite plafonner à 3-3,5%. Mais ce sera quand même des taux d'intérêt qui seront...
élevés.
Mais élevé par rapport à la croissance potentielle et par rapport à la déflation.
Pour les emprunteurs,
ça va être assez assassin, oui.
Et surtout, il y a
un stock de dette qu'il va falloir...
C'est ce que je dis. Donc, globalement, est-ce que vous êtes en train de nous dire que malgré vos anticipations, vous, de déflation, on va continuer à avoir des taux d'intérêt à long terme, on va pas revenir à des taux négatifs?
Non, je pense pas qu'on reviendra à des taux négatifs, parce que les taux négatifs étaient le produit quand même d'une volonté, qui était une volonté de politique monétaire. Cette volonté de politique monétaire était à la fois d'alléger la contrainte sur les États en particulier, et de dire qu'on allait au travers de cette politique ressusciter de l'inflation. Or, c'est pas ce qui s'est passé. On a ressuscité de l'inflation des actifs, mais pas de l'inflation au sens traditionnel. C'est-à-dire, on n'a pas
augmenté. Donc, pas de taux négatif, mais Wilfried, on peut se dire, voilà, le taux français aujourd'hui, il est à 3,60 et quelques. On va descendre à combien? Parce qu'on aura toujours notre dette et toujours. Et d'un autre côté, on aura une croissance molle. On va finir à combien? À 3?
On va probablement avoir une fragmentation de l'univers des taux d'intérêt en fonction de la qualité des émetteurs. Hein.
D'accord.
C'est pas pareil de parler du taux allemand.
En France, vous les voyez où?
Ah, je pense qu'on va probablement baisser légèrement les taux, mais pas en dessous de 3%. Ça certainement pas en dessous.
Pareil sur la France.
Oui, je suis assez d'accord avec cette analyse. Je pense qu'effectivement, on va tourner en France et aux alentours de 3%, en Europe aux alentours de 3%.
Avec peut-être zéro d'inflation.
Avec une inflation qui, effectivement, dans
et 0,5 de croissance.
Et 0,5. Donc c'est le pire qui puisse se produire, quoi, en fait. on aura le pire des deux.
Pour les emprunteurs.
Pour les entreprises, ça veut dire qu'il faut absolument avoir une stratégie de reconstitution des fonds propres.
Dans la période actuelle.
Et pour les États, il va falloir se faire à l'idée de redresser véritablement les comptes publics. La question de savoir si c'est par les impôts ou par les dépenses publiques.
Pour les électeurs
les électeurs aussi.
C'est comme les souhaits de la paix dans le monde des Miss France, quoi.
Exactement.
Ça n'arrivera jamais. Allez, on passe tout de suite au marché cette semaine. Bon, évidemment, on a eu des rebonds spectaculaires, hein, avec notamment le Japon, plus de 7%. Le Japon fait plus 40% quand même depuis le début de l'année. On voit toujours cette fragmentation dont vous parliez dans l'économie, on la voit aussi sur les marchés, avec des marchés européens qui restent encore très très en retard, les marchés américains qui continuent à cavaler en tête de record en record. C'est quoi l'événement qui vous a le plus marqué, Louis, cette semaine sur les marchés?
Moi, je trouve que c'est l'effritement de la valeur de l'or.
Vous allez énerver. Vous savez que ça... Alors là...
Non, mais on en parlait tout à l'heure.
Ouh là 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 là.
On est dans.
Ah, le mec, il l'attaque bille en tête, là.
Non, mais pour reboucler direct. Non, mais je suis d'accord avec Céline depuis longtemps sur ce sujet-là, même si c'est pas la focale de ma gestion. Mais en fait, on est dans un monde où tout le monde cherche de la dette, où les États, en fait, sont incapables de se réformer. Littéralement incapable de se réformer. Et donc, on a des banques centrales qui roulent des mécaniques en prétendant que non, il faut être sérieux. Mais à un moment ou l'autre, on peut se poser la question de l'indépendance des banques centrales. Est-ce que véritablement, elles vont pouvoir faire monter la pression quand on a un Kevin Warsh qui veut réduire la taille du bilan de la banque centrale américaine, alors qu'en réalité, les Américains dépensent absolument sans compter au niveau budgétaire. Et donc... on peut se poser la question sur la valeur de la monnaie à long terme. Donc, on a un peu oublié, on parlait du debasement trade il y a quelques temps. Alors, les banques centrales ont rentré beaucoup d'or. Effectivement, comme la valeur de cet or a monté, ça a fini par représenter une proportion.
Oui, et puis elles en ont vendu parce qu'elles en avaient besoin. La Russie en a vendu, la Turquie en a vendu.
Certaines banques centrales ont vendu, mais on peut quand même se dire que l'or, aujourd'hui...
Donc, vous, ce qui vous a frappé, juste, comme vous connaissez bien ce secteur, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intro de SpaceX?
Alors, ça fait partie des événements liés précisément à ce que j'appelle une rupture technologique, c'est-à-dire que c'est très dur d'appréhender véritablement la valeur d'une entreprise dont l'essentiel repose sur des optionnalités. Alors, des optionnalités qui sont sérieuses, mais c'est un peu Elon Musk. Finalement, quand vous achetez du Tesla, vous n'achetez pas une boîte de bagnole, parce qu'elle vaut plus que toutes les boîtes de bagnole regroupées les unes avec les autres. Vous achetez l'optionnalité des robots taxis, vous achetez l'optionnalité
des robots
humanoïdes. Mmh. Là, c'est pareil. En fait, on est dans cette idée qu'on va avoir un besoin absolument massif de puissance de calcul, parce que en fait, on regarde l'IA sous l'angle des LLM, mais en réalité, derrière, il y a ce qu'on appelle physical AI, c'est-à-dire effectivement la robotique humanoïde, qui va demander des puissances de calcul absolument gigantesques.
Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'intro de SpaceX?
Il n'y aura jamais assez d'électricité sur Terre. Donc, l'introduction, c'est un succès absolument incroyable.
Oui, ça, d'accord. Mais est-ce que vous dites attention danger ou vous dites non, on ne sait pas?
Ça repose beaucoup. Alors, je dis les deux. Okay. Dis attention danger, ça repose beaucoup sur le retail. Et on ne sait pas parce que.
74% des actions échangées lundi dernier. À la bourse de Wall Street, c'était SpaceX. Voilà. 74%.
Ça vous inspire quoi, l'intro de SpaceX? Vous en avez fait?
La bulle.
Vous en avez fait?
J'en ai pas fait, non. Non, mais quand
Vous avez eu tort, ça a pris 40%.
De la gestion, là.
Là. Non, mais quand je vois ce type d'événement, ça me rappelle, moi, j'ai commencé à faire mon mémoire de fin d'études sur la valorisation des sociétés Internet.
Ouais.
Et j'avais rencontré tous les patrons de la place de Paris à l'époque, EuropaTweb, Galileo Partners, etc., qui m'avaient tous expliqué.
Et cette fois, c'était différent.
C'était un nouveau
paradigme.
Paradigme, voilà.
Nouvelle méthode de valorisation.
Calcul avec des clics. Et on avait ces phénomènes.
C'était les Louis de Montalembert de l'époque.
De prix par rapport aux ventes. Voilà. Et j'avais quand même eu un monsieur qui avait eu la gentillesse à m'expliquer, depuis qu'il y a des filles qui font des études, ça fait baisser le niveau, parce que vous posez des questions, vous comprenez pas. Parce que j'avais osé lui demander s'il y avait un rationnel derrière tout ça.
L'ancêtre de Louis de Montalembert.
Voilà.
Et vous pouvez balancer là maintenant, c'est la période.
Non, je vais pas le dire.
Vous pouvez balancer les noms, c'est la bonne.
Ça m'avait frappé. Ouais. Et donc aujourd'hui, quand je vis l'IPO SpaceX, je me dis. Attention, je l'ai déjà vécu cette histoire. Il y avait eu la même chose la dernière fois. Donc je dis attention, danger. Et je pense que le danger, quand même, aujourd'hui, il se rapproche grandement. Voilà, donc il faut faire extrêmement attention. On a un niveau, comme le disait tout à l'heure Louis, il y a vraiment un tout petit nombre de valeurs qui montent, ça doit être une poignée, et le reste qui fait rien. Si vous regardez les marchés, par exemple, américains depuis 3 mois, vous avez tout ce qui est lié au semi-conducteur à l'IA qui fait plus 80, et le reste, la santé, la consommation, l'énergie, moins 10.
Mais on dit ça depuis des mois et ça continue quand même. Hein.
C'est pas pour autant que...
Ça s'arrête. Parce que, voilà. Jean-Marc, vous, je me plais à le rappeler, qui avait connu le krach de la tulipe. Est-ce que vous pensez que SpaceX, c'est la tulipe d'aujourd'hui?
Alors, ayant connu le krach de la tulipe, j'ai connu aussi le krach de la compagnie des mers du Sud en Angleterre. Et donc, mon maître Newton, c'est mon maître,
et ami.
Alors ça, c'est un scoop. Donc, avait coutume de dire qu'il était capable de calculer le mouvement des planètes, qu'il était capable de faire des calculs très élaborés, mais qu'il y a deux choses qu'il était incapable de mesurer, c'était la cupidité des uns et la naïveté des autres. Et donc, je ne sais pas, dans cette situation, c'est sur les marchés, c'est assez souvent le cas, si on est dans une phase où il y a quelques cupides qui sont en train de se...
En tout cas, il y a beaucoup de naïfs.
Voilà. De se construire à une forme...
Plus sérieusement, quand vous regardez ça, vous vous dites, ils sont dingues, ou vous dites, non, de toute façon, écoutez, ça fait partie du jeu.
Écoutez,
ou, comme dit Louis de Montalembert, c'est un nouvel environnement et on ne sait pas ce que ça peut produire. Non,
c'est un nouvel environnement technologique, mais ce n'est pas forcément un nouvel environnement sur le raisonnement, mais économique et financier. Alors effectivement, on parlait d'Internet, qui est plus récent peut-être que Newton, mais il y a toujours ce mécanisme-là où il y a une phase d'emballement et puis après il y a des gens...
Moi je me souviens que quand Google a été introduit à $100, j'avais trouvé ça parfaitement excessif, et je me rappelle de Facebook qui s'était introduit à $100 milliards à l'époque, on disait mais ces gens sont totalement dingues. Voilà, donc c'est...
Ouais, je suis d'accord.
Il y a deux, trois éléments.
Bah, alors, il faudra
me dire, si c'est non pas un nouveau paradigme, c'est le mot à éviter absolument dans le métier, mais effectivement une rupture technologique que je n'ai jamais vécue, j'essaie de regarder les choses un peu différemment. Je n'ai pas acheté de SpaceX pour autant.
Mais à un moment donné, il faut faire des bénéfices. Non. Ça, c'est la règle,
c'est la règle
fondamentale en économie. Et on revient à ce que disait Wilfried sur les principes de Mankiw. Il y a le fait que l'homme est intéressé et qu'à un moment donné, il faut effectivement, on ne peut pas distribuer plus de revenus que ce que l'on produit. C'est la production qui génère le revenu.
Voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que je rappelle ce qu'on avait vécu la dernière fois. On m'avait dit pet.com, on le reverra plus. Quand je vois des sociétés que, quand même, ça devient la 5e capitalisation boursière mondiale alors qu'elle fait pas de profit, ça m'interpelle. Voilà, c'est juste que ça, c'est ça qui me pose problème.
Résultat des courses dans quelques mois et dans quelques années. Allez, le placement de la semaine pour vous, mes amis. J'imagine que c'est l'or. Non ? Ou pas ?
Non, alors...
Qu'est-ce qu'on fait avec l'or, déjà ?
Alors, l'or, évidemment, on garde.
On garde.
Voilà, parce qu'effectivement, on est dans un monde compliqué. On parlait tout à l'heure des taux d'intérêt. Si effectivement, on reste sur des taux d'intérêt qui ne sont pas si bas que ça et qu'on a une compétition pour accéder au capital, ça risque un jour ou l'autre de poser problème, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a une énorme question.
On revient dessus.
Sur les flux de trésorerie disponibles de ces sociétés technologiques qui vont être problématiques.
Donc on revient sur l'or.
Donc on reste sur de l'or. Après, si vous pouvez, à mon avis, le cash peut être aussi quand même une option. Ouais. Si vous pouvez réduire la voilure dans vos investissements.
Boursiers.
De façon générale. Si vous pouvez peut-être souffler un peu. Ça me semble être quand même le moment de le faire. Attendons de voir ce qui se passe à l'automne. Et puis, troisième chose, aller chercher des actifs décotés, peu détenus, partout dans le monde. On parlait tout à l'heure, je disais, par exemple, le secteur de la santé, le secteur de la consommation non discrétionnaire, qui ne font rien, qui sont complètement délaissés. Des classes d'actifs très ennuyeuses, qui ont des dividendes, qui peuvent être intéressantes dans cet environnement, qui peut devenir à tout moment beaucoup plus compliqué que...
Vous allez nous donner un exemple tout à l'heure dans vos recommandations. Voilà. Louis,
moi,
placement de la semaine.
Exact contre-pied.
Allez-y, Louis.
Et avec modestie, parce que
bah, modestie, franchement, c'est pas votre fort.
Mais modestie. Finalement, je reviens sur le raisonnement de Céline. Effectivement, depuis le début de l'année, il y a les 12 premières par performance du S&P 500, c'est des boîtes de semi-conducteurs. Et donc, moi, je reste sur cette idée que on est dans le monde de la carence, d'accord ? Il y a deux grandes carences aujourd'hui, qui est la carence d'électricité et la carence de composants pour construire ces nouvelles usines à intelligence qu'on est en train de faire. Et Dieu sait que je me suis fait violence, parce que moi, j'étais très investi dans le logiciel, et donc très régulièrement, je regarde le logiciel, c'est totalement décoté dans la logique décotée. Est-ce qu'il n'y a pas un moment ? Et bien finalement, à chaque fois que je dis à mon associé, c'est pas le moment, on reprend un peu de logiciel, ça ne vaut plus rien. J'ai eu tort, puisque effectivement, il faut rester à mon sens. Donc, pour répondre pleinement à la question, moi, je reste sur ce monde de la carence. Donc, effectivement, des composants pour construire les...
Vous nous aviez conseillé Soitec et ça a pris déjà 97%. C'était votre dernière recommandation. Voilà. Allez, on va passer tout de suite au top ou au flop de la semaine. Pour vous, Wilfried, c'est quoi le top ou flop d'abord?
Le flop, c'est les 655 millions d'euros annoncés par Sébastien Lecornu dans nos investissements IA. Je rappelle que les Américains investissent 10 milliards par jour.
Mais on les a pas.
Voilà. Enfin, déjà un, on les a pas. Et deux, on va encore faire appel à une espèce de bousin public pour essayer de compenser quelque chose, alors qu'il faudrait simplement déverrouiller et aider les entrepreneurs à travailler et à produire, ce qu'ils savent parfaitement faire dans
Absolument.
Certains secteurs.
On n'a pas besoin
de quanti, comme qu'autre chose. Mais sauf qu'on veut, avec nos moyens qui sont quasiment inexistants, mener la bataille d'avant.
Arrêtez de nous emmerder, laissez de nous travailler.
Exactement.
Louis de Montalembert.
Moi, c'est
top ou flop.
Top des. C'est un top de l'année, des 12 derniers mois. Hein, c'est la
Jean-Marc
revanche
Daniel.
Du ringard, c'est-à-dire.
Oui, Jean-Marc Daniel.
Pardon.
Non, j'avais dit Jean-Marc Daniel.
Aucun rapport. Aucun rapport.
Vous avez dit la revanche du ringard.
Oh là là. Je
retire ce que j'ai dit.
Alors, c'est pas la revanche de Jean-Marc Daniel.
Profite bien de ce plateau. Hein.
C'est la revanche de la mémoire. En fait, vous vous souvenez tous de SanDisk, qui est
des
vulgaires clés USB. C'est la première performance. C'est quand même 4500, plus de 4000% de performance sur les 12 derniers mois. Mais on pourrait mettre derrière Western Digital qui fabrique des disques durs.
C'est vraiment la pelle et les pioches, hein.
C'est vraiment. Non, mais c'est surtout, c'était les plus commoditaires.
Oui, c'est ça, la pelle et les pioches.
Méprisées. Voilà. Mais surtout, c'est devenu des composants qui sont devenus essentiels. Donc, tout le monde a abandonné ses activités, les a laissées en se disant c'est vraiment trop de la bouse. Et au final, aujourd'hui, on en manque. Et ça devient. Donc, la première performance du S&P 500 depuis 12 mois, c'est SanDisk.
Bravo.
Plus de 4000%.
Top ou flop?
C'était un top, mais je pense que ça va compléter ce que dit Louis, parce que c'était pour repartir toujours sur l'IPO de SpaceX, pour dire qu'on avait fait cette IPO à plus de 96 fois les ventes. On avait eu effectivement le patron de Sun Microsystems qui avait dit en 2002 « What were you thinking ?» parce qu'on avait payé 10 fois Sun Microsystems. Et pour revenir effectivement sur l'analogie, s'il faut attendre tous les 26 ans qu'on ait un pic sur ces valeurs-là, c'est long. Voilà. C'est juste ça qu'il faut quand même se remettre en tête, c'est que
la leçon du passé.
Il a fallu revenir au cours d'Intel de 2000 en 2026, en avril 2026. Effectivement, c'est des progressions spectaculaires, mais qu'il ne faut pas les rater. Mais après, il faut savoir sortir aussi.
Voilà. Jean-Marc Daniel, top ou flop?
Alors moi, c'est un top aussi.
Ah, et super.
Une façon d'être ringard, oui. Parce que je vais rebondir sur ce que vient de dire Louis, c'est-à-dire que je rends hommage aujourd'hui, c'était il y a 25 ans qu'il a fait sa déclaration, à Serge Turuc, puisque c'était il y a 25 ans que dans un colloque à Londres,
loin.
Il avait dit qu'il fallait s'orienter vers l'entreprise sans usine.
Ouais.
Et alors depuis, on lui est tombé dessus.
La faiblesse.
De notre côté, le modèle, c'est Nvidia.
Faiblesse.
Je pense que ça fait effectivement, à l'heure où on ne parle que de réindustrialisation, où on rend un petit hommage quand même aux entreprises ringardes, entre guillemets, à l'ancienne et tout ça. Moi, ma façon d'être ringard, c'est de dire il avait raison. Oui. Rendons hommage à Serge Turuc et plus que jamais, il aura raison.
Le top 3 que vous attendez tous, avec toujours le même trio de tête, on a Frédéric Rosier, 23% de hausse. Je vous rappelle qu'il était déjà deuxième l'année dernière. Bravo, Frédéric. Alain Pitou qui s'accroche, 22,1%. Ils se battent, ces deux-là. Et Pierre Chang qui est juste derrière en embuscade à 17,4%. Et j'ai envie de faire peur à Louis de Montalembert si vous voulez mettre une musique. Voilà.
C'est difficile. Hein.
C'est difficile de faire peur à Louis de Montalembert, ouais. C'est pas simple. Hein.
Non.
Snowflake.
On garde.
MongoDB.
On garde.
Procore.
On garde.
Adyen.
Oh là là. On garde.
Non mais oh là là, on garde ou oh là là
non,
on...
c'est des gens qui communiquent atrocement mal. Hein,
ah oui. Alors on garde quand même des gens qui communiquent mal.
On garde parce que 20% de croissance, c'est devenu pas très cher. Donc,
qu'est-ce qu'ils font?
Pardon?
Qu'est-ce qu'ils font?
Pardon. Les systèmes de paiement.
Ok. Broadcom.
On garde.
Synopsis.
Garde.
Schneider Electric.
Garde.
Bon, ça, c'est une bonne. Alors, Palo Alto, vous avez fait un carton, là.
Cybersécurité, ouais, on garde.
Bah, ça a bien rebondi, ce truc-là, là. Non, ouais. Ça s'était fait massacrer, non, c'est ça?
Oui, en fait, toute la cybersécurité est un peu sous la menace des grands modèles de frontières qui disent régulièrement, ah, mais nous, on va faire différemment. Bon, on pense que Palo Alto est assez diversifié pour tenir le choc.
Et votre dernière recommandation, donc, qui a fait un carton, puisque ça a doublé, c'est Soitec.
Oui, j'ai oublié, vous appelez le jour où c'était à 191.
C'est pas grave. Appelez-moi quand vous voulez, même la nuit. Et garde ?
On garde Soitec.
Qu'est-ce qu'on achète, Louis ?
Alors, dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure sur la constitution des usines à intelligence...
Vous avez vu les mots qu'ils utilisent ? Bouse, lignée, on sent quand même...
Oui, on sent qu'il y a le château derrière.
On sent qu'il y a le château derrière.
Des générations.
Dans le...
Voilà.
On sent, il y a quand même un vocabulaire qui vous trahit.
On n'a pas travaillé Louis, la terre
depuis longtemps. Pâture et tenue.
Voilà.
Alors, pour revenir sur ma recommandation, c'est Oracle. Donc, c'est vraiment l'idée des usines à intelligence. Oracle fait un virage sur l'aile, puisque c'était une entreprise de logiciels et plus singulièrement de bases de données. Donc on est sur ce qu'on appelle le data layer dans l'intelligence artificielle. On sait que les données sont clés, donc probablement que c'est les logiciels les moins menacés par l'IA. Mais surtout, il y a une ambition vorace de devenir un des acteurs essentiels de la puissance de calcul. Et on pense que la grande carence aujourd'hui, d'ailleurs tous les grands acteurs, ce qu'on appelle les hyperscalers, disent ben, si on en avait plus, on en vendrait plus. Voilà. Donc, c'est effectivement une entreprise qui, pour faire ce tournant, a décidé de s'endetter assez vivement. Mais bon, c'est 89
milliards. C'est une grosse inquiétude quand même. Ils font de gros investissements, ils s'endettent beaucoup.
Voilà, non, mais c'est moi je ne fais pas ça une grosse inquiétude.
D'accord.
Ça, un facteur de risque.
D'accord.
Dans tout investissement, il y a des facteurs de risque. Le titre était monté à des niveaux qui nous paraissaient excessifs. Aujourd'hui, plus raisonnable. Ça fait 89 milliards de chiffre d'affaires, 90 milliards de chiffre d'affaires à peu près cette année, avec une croissance de 32%. C'est quand même un chiffre d'affaires qui va être multiplié par 2,5 fois dans les trois années qui viennent.
Ah, c'est pas mal.
Grâce à des contrats qui sont signés, on a quand même... Voilà. Donc moi, je crois effectivement au développement de ces usines d'intelligence.
Donc on y va, c'est Oracle. On peut avoir la musique qui lui fait peur aussi. On a du Barrick. Qu'est-ce qu'on
garde.
Fait On a du AIA Group.
On garde.
On a du Total Energy.
On garde.
On a même baisse du pétrole, ça vous fait pas peur?
Non.
On a du Newmont.
On garde aussi.
Du Maidi.
Maidi en Chine, on garde.
On a du Itaú Unibanco. Au
Brésil, on garde parce qu'on a un gros dividende et c'est bien d'avoir.
Vous aimez bien le Brésil, vous?
J'aime bien le Brésil.
On a du B3, Brasil, Bolsa, Balsao.
Oui, parce que c'est un pays dans lequel on a jugulé la problématique d'inflation, donc c'est bien.
Ouais.
On a des dividendes élevés, donc on peut être content.
On a du Sugi Holding.
Ça, c'est une société pharmaceutique au Japon et ça nous permet d'avoir une exposition au yen, qui est une des valeurs, enfin, une des devises les plus faiblement valorisées au monde aujourd'hui.
Et justement, le yen au plus bas historique, très bas, enfin pas plus bas historique.
Oui, c'est une forme de plus bas historique.
Qu'est-ce qu'on 161 contre le dollar. Qu'est-ce qu'on en dit, Jean-Marc?
Mais c'est un problème de politique intérieure, parce qu'à 161 de yen pour un dollar, vous favorisez les retraités, puisque les fonds de pension sont très investis en dollars, et en revanche, vous pénalisez la jeune génération. Et donc, les retraités sont très nombreux, donc la tendance naturelle du gouvernement, c'est de plutôt accepter ça. Mais on est quand même à des niveaux qui commencent à devenir problématiques.
Donc, c'est une bonne idée d'en acheter. Ping Hong.
C'est une société chinoise dans l'assurance. Pareil, vous avez un dividende. Il faut savoir que les taux d'intérêt 10 ans en Chine, c'est 1,7, et là, vous avez un dividende qui est supérieur à 4,5.
Donc, SLB.
Et Schlumberger, toujours service pétrolier, il faut reconstruire toutes ces bases qui ont été détruites. Et comme le disait tout à l'heure Wilfried, il faut aussi construire ailleurs qu'au Moyen-Orient.
Donc. Si vous citez Wilfried, il ne passera plus par la porte. Déjà qu'il a un melon pas possible. qu'est-ce qu'on achète?
Grâce à vous, je dégonfle très vite.
Et donc, comme on essaye d'être très ennuyeux, on achète une société pharmaceutique qui s'appelle AstraZeneca, qui est une société européenne, cotée à la Bourse de Londres.
Qu'est-ce qui vous motive fois. Dans un achat comme ça? C'est intéressant.
Déjà, ils ont un PDG français, ça c'est quand même bien, non?
Voilà. D'accord.
C'est une des sociétés pharmaceutiques qui a de la croissance, parce qu'ils ont eu un bon management qui a été se mettre dans les bons produits, une croissance qui a été supérieure à 10% au cours des 10 dernières années et qui va continuer à être très ennuyeuse autour de 10% jusqu'en 2030. Et l'ennui, ça me semble intéressant parce que ça, on l'achète à 14 fois
Et mais là, vous êtes tombé dans la mauvaise émission, voilà. Si vous cherchez l'ennui.
Je cherche, voilà, mais
il y en a d'autres, même sur cette antenne.
Pour mon patrimoine et pour mon épargne, j'aime bien avoir des choses un peu ennuyeuses.
Boring is good.
Voilà. Mais attendez, AstraZeneca, on se dit quand même que, vu les budgets sociaux qu'on a, on va avoir des pressions gouvernementales sur les remboursements, sur tout ça dans ça.
Oui, mais alors, c'est pour ça, ça qu'il faut que la santé, quand même, elle est sous pression. Et l'avantage, c'est qu'eux, ils ont pris des paris qui sont très forts sur en oncologie, cancérologie. C'est pas des produits qui nous font rêver ou qu'on veut utiliser. Non. Mais malheureusement, on en a de plus en plus besoin. Et ils ont des produits innovants de ce côté-là, notamment des anticorps conjugués. Là, je suis sûre que vous savez ce que c'est.
Bah, bien sûr.
Voilà. Et de l'autre côté, des maladies rares. Donc, en fait, ils sont spécialisés sur des parties du marché sur lesquelles vous avez le pouvoir de fixation des prix parce que vous soignez vraiment des maladies qui ont besoin d'être soignées.
Allez, vous en avez, Louis, de l'AstraZeneca, vous allez regarder
en sortant très loin de mes bases. On est très, très loin de mes bases. Je préfère avoir du Céline Picmalo.
C'est gentil, ça. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas. Alors, ça, c'est mon but. Il faut qu'en jeu, on batte notre dernier record qui était en avril ou mai, je ne me rappelle plus. Et donc, vous pouvez nous écouter, nous revoir, nous réécouter en replay, en podcast et appeler tout le monde, tous vos copains pour qu'ils écoutent l'émission. Allez, à bientôt.
C'est votre argent sur BFM Business.